Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 7 décembre 94.
Nous avons essayé de préciser la dernière fois comment l'adoration, l'acte propre de l'éthique religieuse, qui nous fait entrer dans une nouvelle dimension de notre responsabilité. ça nous relie à Dieu. Ça implique ce point de vue de la dévotion que saint Thomas considère comme le premier acte de la vertu de religion. En théologien, je comprends très bien, mais on acquiert la dévotion. Le théologien, lui, peut parler tout de suite de ça, alors que le philosophe doit montrer que c'est par l'adoration que j'acquiers la dévotion. Ne prenons pas, vous voyez, son ordre génétique. C'est par l'adoration que j'acquiers ce lien avec Dieu, et que ce lien avec Dieu fait que je redécouvre auprès de Dieu la paix et une possibilité d'abandon que je dois acquérir progressivement. Donc c'est quelque chose de vital, l'adoration. C'est la respiration de mon esprit. Au fond, mon esprit comme esprit ne respire que lorsqu'il est auprès de son Père. Il n'y a que là où il peut respirer. En dehors de là, il est dans un désert. Et rien n'est en code naturalité avec lui. C'est vrai, c'est ça qui est si extraordinaire. Il n'y a que Dieu avec qui je suis en code naturalité. Profonde, au plan naturel, au plan philosophique. L'univers, je ne suis pas en code naturalité avec l'univers. L'univers est toujours un désert pour l'esprit. Pour l'intelligence. Et les autres hommes qui sont proches de moi ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre ce lien fondamental et premier qui est le trésor de mon âme. Le premier et le premier secret, donc premier trésor de mon âme, que je dois garder avec une force et une jalousie d'amour. Puisque je sais que sans ce lien, je suis un errant. Et je risque par le fait même de considérer que je n'ai pas de place dans l'univers. Je ne peux pas découvrir ma place dans l'univers sans avoir découvert en premier lieu ce lieu, le lieu de mon âme spirituelle auprès de Dieu par l'adoration. C'est là où je suis bien. Parce que je suis en code naturalité. Tu es esprit, je suis esprit. Et dans l'adoration, je découvre la sagesse créatrice de Dieu, donc du esprit. Ça, c'est capital, vous voyez, comme expérience interne. C'est la grande expérience interne. C'est l'expérience interne première, fondamentale et nouvelle. Alors la tentation, au point de vue tentation philosophique, c'est qu'ayant découvert l'adoration comme l'acte qui me lie à ma source, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas d'éthique sans l'adoration. C'est la position de certains aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire attention. On est au plan philosophique, donc on distingue. Je crois qu'il n'y a pas d'éthique si je me sépare de l'adoration. Mais il y a une éthique philosophique fondamentale, distincte de l'éthique religieuse. Vous voyez, toujours là, confusion entre distinction et séparation. Parce que ça, je crois que c'est important. C'est important de comprendre qu'il y a une éthique fondamentale, distincte de l'éthique religieuse, qui est première génétiquement, mais qui ne peut pas se séparer de l'éthique religieuse. Le jour où elle se sépare de l'éthique religieuse, elle perd sa finalité propre. Or, l'éthique a personne ne découvre qu'il y a un véritable amour. Dieu n'aime pas le crocodile pour lui-même. Je prends le crocodile puisque c'était un animal sacré des Égyptiens. Donc, pour un Égyptien païen, il n'était pas assez philosophe et considérait que Dieu avait créé le crocodile pour lui-même, puisque c'était un animal sacré. Ou la vache, sacrée pour l'Inde. Dieu n'a pas créé la vache pour la vache. Non. Pour elle-même. Parce que la vache n'est pas sacrée. Et le crocodile non plus. Voyez, c'est très important ça de découvrir ça. Parce que ça montre l'erreur de certaines traditions religieuses qui ne met pas l'homme à sa véritable place. Dans l'adoration, je découvre ce fait que l'homme est créé par Dieu pour lui-même. Et c'est là où je découvre la paternité. Le créateur comme créateur, c'est le point de vue de la communication, de l'exister, de l'être en acte. Tandis que la paternité, c'est la création d'un être spirituel, capable de rejoindre le créateur dans un acte d'adoration. C'est très beau et ce serait très intéressant à préciser. Point de vue philosophique, comment la paternité se découvre à travers l'adoration. Et posez ça comme petit problème pour vous, comme recherche. Ce que les néoplatoniciens avaient découvert. Parce que du côté, de ce côté-là, le néoplatonisme va plus loin que l'aristotélisme. Précise davantage. Et ça fait partie du patrimoine philosophique. Je prends aux néoplatoniciens ce qu'il y a de bon. Et je laisse tomber ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est leur théorie de la connaissance. Ce qui est bon, c'est ce qu'ils ont saisi, qu'il y a entre l'homme et le Créateur un lien de filiation et de paternité. Alors ça, je crois, c'est Proclus qui dit ça. Il dit que Dieu est créateur pour tout le monde physique, il est père pour l'homme. C'est quand même beau de voir ça, deuxième siècle après Jésus-Christ. Et en disant ça, ils rejoignent la révélation, dans le point de vue purement philosophique. Et donc, c'est ça que je dois découvrir au point de vue philosophique, comment l'acte d'adoration me fait découvrir la paternité de Dieu. Parce que me fait découvrir ce lien de liberté dans l'amour que j'ai pour lui. Je me mets vraiment relatif à lui et capable de le servir. Le service d'amour comme un fils bien-aimé. Et je reconnais que l'acte d'adoration est un acte libre et le plus grand acte que l'homme faire naturellement le plus grand acte. Il redécouvre sa source. Il redécouvre sa source, il redécouvre le lieu de son repos. Et c'est à partir de cette paternité découverte dans l'adoration que l'adoration alors s'ouvre à quelque chose de plus grand que l'adoration. C'est pour ça que quand je dis que l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est vrai, comme premier acte absolu. Il y a un absolu dans l'adoration. Et cependant, l'adoration n'est pas l'absolu d'une manière complète. Il n'est pas C'est à cause de cela qu'il ne peut être que contemplé. Et là, je découvre que la contemplation dépasse l'analyse. Et là, je découvre que l'intelligence, comme intelligence, a soif de contemplation, au-delà de toute analyse. Je découvre que la contemplation, allant au-delà de l'analyse, peut se contenter d'une présence. Je peux contempler un être dont j'ignore ce qu'il est, mais dont je suis sûr qu'il est présent comme père. Et c'est là où je découvre ce qui caractérise mon intelligence, liée à la raison, mais dépassant la raison. Mon intelligence intime. fausse intériorité. C'est une intériorité quantitative, imaginative, mais qui n'est pas une véritable intériorité. La véritable intériorité, c'est le jugement, qui est la perfection de l'intelligence, et le jugement contemplatif, qui n'est pas l'appréhension, qui est un jugement contemplatif. Vous voyez, si mon intelligence se ramenait à l'appréhension, à la manière de Descartes, il n'y a pas de contemplation possible. Parce que tout se ramène à l'appréhension. Alors il faut assimiler Dieu. Donc il faut tenir Dieu. C'est les deux extrêmes, dialectique et assimilation. Et la position intermédiaire qui dépasse, c'est de comprendre que la contemplation est dans le jugement, ni dans la dialectique, ni dans l'appréhension. Et le jugement, c'est une adhésion. Le jugement n'est pas premièrement une vision, c'est une adhésion. Si, justement, le jugement n'était pas premièrement une adhésion, il n'y aurait pas de contemplation de Dieu. Parce que je ne le vois pas. On peut s'imaginer voir Dieu. Ça existait dans l'histoire. On peut s'imaginer voir Dieu. Et on voit ça tout de suite, après Descartes. La position de Malebranche, la position qui veut être une vision de Dieu. On voit Dieu et à l'intérieur de cette vision de Dieu, on voit tout. En réalité, c'est imaginatif. Alors, il faut bien saisir que la contemplation, c'est dans le jugement. Et le jugement, c'est une adhésion à la réalité. Et quand cette réalité est la réalité première, dans cette réalité, c'est le Créateur et le Père. Le Père, en tant que Père, je veux demeurer auprès de lui pour le contempler, pour être tout entier tourné vers lui. Et je peux être tourné vers lui dans le jugement, dans l'obscurité. Je ne le connais pas. Je sais que je ne peux pas le savoir, voir sa lumière, mais je peux demeurer, et je demeure en sa présence. Je sais que lui me voit, et c'est suffisant. Si j'affirmais que Dieu ne me voit pas, et que tu es dans l'incapacité de me voir, il ne pourrait pas y avoir contemplation. Alors c'est cette chose très curieuse. Et ça, c'est la conscience de l'enfant. Et c'est la contemplation de l'enfant, c'est la contemplation du Fils. La créature est petit enfant face à Dieu. Je peux contempler parce que j'ai une totale confiance dans mon Père qui me crée dans sa lumière et qui est Père dans sa lumière. Il me voit. Il m'aime. Du fait qu'il me voit et qu'il m'aime et qu'il est là présent, c'est suffisant pour moi de m'abandonner entièrement à lui et d'adhérer à sa présence. Même si je ne vois rien, mon abandon est plus grand dans l'adoration. Et cela suffit pour rester en sa présence. Pour rester tout entier tourné vers lui. Mais je suis... point de vue-là, je peux dire que cette attitude, qui est une attitude imparfaite du côté de l'intelligence, une attitude parfaite du côté de l'amour, je peux dire que cette attitude-là est vraiment ce qu'il y a de plus grand. C'est fondé tout le temps dans l'adoration. L'adoration demeure toujours en acte pour qu'il y ait contemplation. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est par l'adoration que je sais que Dieu me regarde et qu'il m'est intimement présent. Il n'est pas seulement à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Et c'est parce que cette présence est si intime que je peux adhérer pleinement à son acte d'amour, à son acte de sagesse. Et je peux rester dans sa présence, dans son intimité, tout entier tourné vers lui. Et je vois que cet acte-là, s'il est très imparfait du côté de la connaissance, acquiert cependant une dignité unique, puisque je suis tout entier tourné vers lui, en désir de le connaître. Je l'aime, et c'est cela qui me porte vers lui, en désir de le connaître, en désir de savoir ce qu'il est et de contempler sa lumière. Et là, je touche vraiment ce qu'il y a de plus grand dans l'acte humain. On ne peut pas avoir quelque chose de plus grand que cela. Et je peux reprendre là toute l'analyse que fait Aristote dans le livre 10 de l'Éthique, quand Aristote parle de la contemplation de Dieu. Et je comprends cette contemplation de Dieu quand j'ai fait ce petit cheminement pour comprendre que là, je suis en face de celui qui est ma source et ma fin. Et en lui, source et fin se rejoignent. Source, il est le créateur de tout ce que je suis. Il est le créateur de mon âme. Il est le créateur de mon être. Je participe à son exister. Il est créateur de mon être. Et il est en même temps celui qui finalise tout ce que je suis. Il finalise ma vie intellectuelle. Mais comme ma vie intellectuelle ne fait qu'un avec ma vie substantielle d'âme qui informe mon corps, je peux dire à ce moment-là que vraiment il donne un sens à toute ma vie. Il me finalise dans tout ce que je suis. Mais il me finalise sans apporter à l'intelligence la satisfaction que l'intelligence voudrait avoir de voir. L'intelligence voudrait voir Dieu. Elle sait qu'elle ne peut pas le voir. Et c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas le voir naturellement qu'elle peut rester dans cet état en considérant que c'est normal, c'est naturel. Il est naturel pour la créature spirituelle de ne pas voir Dieu parce qu'elle est créature. Vous voyez comment l'acte d'adoration, source de la contemplation, sera source aussi d'acceptation plénière que l'appétit de mon intelligence n'est pas totalement satisfait. Puisque mon intelligence veut voir. Il y a une curiosité dans l'intelligence, un appétit naturel. très important pour comprendre la différence d'attitude de celui qui adore et de celui qui attend. Celui qui adore dans sa volonté, il est satisfait d'aimer en adorant et d'aimer comme il doit aimer en adorant, mais il est en même temps insatisfait dans son intelligence parce qu'il est tout entier tourné vers son père, son créateur, et qu'il ne le voit pas. Et c'est pas contradictoire, hein. Et c'est là où on saisit comment l'amour va plus loin que la connaissance et comment c'est l'amour qui pacifie en définitive, c'est pas la connaissance. Celui qui adore est pacifié et pacifique, mais il demeure plein de désir quant à sa connaissance, et ce désir se réalise dans l'obscurité et l'imperfection, et cela il l'accepte.